Bordel. Moi, Lancelot, je grandis dans un bordel, celui de ma mère. Je naquis la tête la première en 1888, expulsé dans le plus grand bordel de tout Paris. Très tôt, à l'âge de 7 ans, ma mère m'avoua d'un air équivoque que notre demeure était une maison close. Une maison fermée, si tu préfères, mon chéri, précisa-t-elle. Pourtant, je m'aperçus très vite que la porte d'entrée de la maison restait toujours grande ouverte, laissant place à d'incessants va-et-vient qui d'emblée m'intriguèrent.
« Dites-moi, mère, qui sont tous ces gens ?» lui demandai-je l'air pantois.
« C'est notre grande famille, mon Lancelot, » me confia-t-elle. Sourire aux lèvres. Ma mère était la plus belle femme parmi toutes ces beautés qui défilaient dans cette vaste de maison fermée. Elle m'aimait, je l'aimais. Son attention à mon égard était sans pareil, comme si elle avait jeté son dévolu sur moi, me couvant de ses divins baisers. Moi, je me croyais l'élu de son cœur. Elle était la patronne de cette somptueuse demeure. De larges canapés rouges satin et des chaises roses assorties aux tables rondes en bois d'acacia habillaient le grand salon. Les murs tapissés de papier peint velours violet rendaient le lieu hypnotique. Certaines femmes étaient assises dans les canapés. Elles portaient des tenues très légères, laissant entrevoir des décolletés plongeants. D'autres, appuyées contre les murs, relevaient leurs robes, dévoilant d'interminables jambes aguicheuses. Toutes ces beautés, aux coiffes apprêtées, étaient entourées d'hommes aux costumes sombres soyeux et chapeaux hauts de forme satinée. Ils semblaient tout d'abord converser entre eux, buvaient généreusement, puis, plus la soirée s'éternisait, plus des fous rires éclataient et des soupirs résonnaient dans la maison, faisant éclore un sacré bordel de gémissements de plaisir empreints d'une folle atmosphère aussi gênante que mystérieuse. Le lendemain, au petit matin, notre maison close changeait radicalement de décor. Vide, un calme olympien envahissait les pièces jusqu'au jardin. J'adorais dévaler les marches du grand escalier depuis ma chambre pour rejoindre la cuisine où ma mère, Mathilda, préparait des petits pains croustillants au chocolat blanc. Je croquais aussitôt mon petit déjeuner dans un hamac installé dans le jardin, à rêver dans les airs pendant qu'une odeur sucrée envoûtait mes narines. Rien ne venait interrompre ce moment de songe savoureux. Je me sentais heureux dans mon berceau de froufrou choyant. À 12 ans, je me régalais à lécher la boule de glace vanille, jubilais à jouer aux osselets entre amis, et raffolais de me retirer dans les couloirs infinis de cet immense bordel avec mon meilleur ami, Cyrano. Nous partagions un passe-temps favori. Espionné par le trou des serrures des portes mystérieuses et closes. Nous croyions, ou plutôt nous craignions, de n'avoir jamais su quel sentiment de gêne ou de jouissance était le plus fort en nous quand nous regardions par le petit trou. Des corps d'hommes graciles comme un fil ou affublés de bedaines tellement rondes qu'on aurait cru qu'ils avaient avalé une pastèque. Des jambes féminines interminables de flamants roses semblaient déstabiliser les murs qui ne savaient plus quelle attitude afficher. Ces couples se dévisageaient de regards si gourmands qu'on aurait cru qu'ils allaient se dévorer. Mais le clou du spectacle ne reposait pas sur cette mise en scène. Oh que non, non. Le meilleur restait à venir. Le pourquoi du comment, de ces incessants va-et-vient qui m'intriguaient tant depuis si longtemps. Le passage à l'acte nous révéla le grand secret de notre maison close. Enfin, de notre maison fermée, si vous préférez. Cyrano et moi-même épions les couples disparaître, tel un jeu de cache-cache, et scrutions les draps blancs remués, danser, s'agiter, presque se déchirer, quand soudain, plus rien. Les couples sortaient de leur cachette, le visage béat, totalement épris d'amour. Nous étions persuadés d'être les témoins privilégiés d'un tour de passe-passe magistral et d'avoir enfin compris le mystère qui planait à l'intérieur de la maison. Ce cortège familial de va-et-vient incessants nous rendait visite pour éprouver un vif sentiment d'amour grâce à l'inexplicable tour de magie de nos fabuleux draps blancs. Il y a des choses comme ça que l'on croit et que l'on garde en soi pendant un long moment. Je n'avais alors que 16 ans, lorsque Mathilda, en très bonne mère qu'elle était, entreprit de poursuivre mon éducation par l'éveil de ma sexualité. Moi, je n'attendais que ça, pouvoir enfin m'allonger sous les fabuleux draps blancs. Rien que de fantasmer à cette idée, mon sexe durcit et se redressa tel un bon petit soldat. Un soir, je reçus la visite d'Angelina. Un véritable petit ange s'avança face à moi. La courbe de ses seins me faisait penser aux boules de billard qui se trouvaient dans la salle destinée au fumoir. « As-tu envie de caresse, mon chaton ?» me murmura-t-elle.
« Je n'ai jamais fait ça, mais j'avoue ressentir un besoin pressant d'assouvir ma curiosité. Je ne me suis plus sentie aussi excitée depuis mes premiers orgasmes nocturnes sous les conseils avisés de Mère Mathilda. J'ai hâte de découvrir ce tour de passe-passe. »
« Vraiment, Lancelot, tu sembles avoir beaucoup d'élan. » En moins de temps qu'il ne fallut pour le dire, notre couple se retrouva sous les fabuleux draps blancs. Après cette offrande à l'amour, nous restâmes un long moment sans se parler, nus l'un à côté de l'autre. Angelina laissa glisser les draps au bout du lit et, sans dire mot, sortit de la pièce satisfaite de son acte accompli. Je me retrouvai seule. Je ressentis une étrange tristesse m'envahir. Je suffoquai. Les larmes montèrent aux yeux et je pleurai. Les moments que j'avais vécus étaient authentiques. J'avais joui, toutefois, le tour de magie n'avait pas opéré. Des jours, des semaines, des mois s'écoulèrent sans que moi, Lancelot, n'ai eu le courage, l'audace de me confier à Mère Mathilda. Jusqu'au jour où le désir de poursuivre ma quête de l'amour m'encouragea à inviter trois demoiselles sous les fabuleux draps blancs. «
Finalement, me dis-je, Angelina n'était peut-être suffisamment pas à mon goût. Que cela ne tienne, il me faut plusieurs filles dans mon lit. »
Régine était une jeune femme d'une étourderie délicieuse, presque désinvolte. Le charme de Petra était irrésistible, empreint d'un tel naturel aussi simple qu'attachant. Alors que la silhouette racoleuse de Frida m'intimida presque au point de ne pas m'allonger sous les draps blancs pour une partie de cache-cache. Dessous, bien des choses se confièrent. Je crus jouer une pièce de théâtre en trois actes aussi hallucinant qu'haletant. Mon corps nageait dans une mare de sueur chaude. Mon cerveau était en ébullition, atteignant une effervescence sensorielle maximale. Après bien des ébats, j'étais éreinté, tel un marathonien franchissant la ligne d'arrivée. Alors, joli cœur, es-tu comblé ? Me susurra Frida.
Comblé ? Lessivé. Je suis décivée, mesdames,
marmonnai-je. Les trois grâces rassemblèrent leurs tenues légères et quittèrent sans plus tarder cette ambiance feutrée aux lumières tamisées.
Cela n'a pas fonctionné. Quelque chose a capoté. Mais quoi ?
Redouter de voir s'effacer le mystère des draps blancs de la maison close était pour moi, Lancelot, comme un deuil, où la mort l'emporterait sur la vie. Avant tout et en dernier ressort, je dévoilais ces fascinants épisodes érotiques à Cyrano, lui soulignant avec regret de n'avoir pu ressentir un sentiment d'amour.
« Comment est-ce possible ? »
s'exclama Cyrano.
« Peut-être étais-tu tellement occupé à t'agiter sous les draps blancs que le tour de magie t'est passé sous le nez. Tu n'as tout bonnement pas eu le temps de saisir l'occasion rêvée. Peu importe. Nous allons nous cacher ensemble sous ces fabuleux draps blancs. Ainsi, nous aurons nos quatre yeux pour capturer le mystère. »
À la tombée de la nuit, Cyrano se blottit contre mon corps sous les draps. Il me caressa les cheveux. Il caressa tout mon corps svelte de la paume de la main. À contempler Cyrano, un frisson de plaisir aussi intense que chavirant s'empara de moi et me subjugua dans une transe de désir si puissante que je me mis à bander et sentir mon sexe vibrer, laissant échapper une onde des gémissements de plaisir. La tendresse s'adonna au bal des caresses, et les moines trouvaient mot à dire, ne songeant qu'à l'instant d'adresse. Un sentiment d'amour planait. On ne dormit presque pas cette nuit-là, pas plus que les draps blancs, d'ailleurs. Les moments que nous vécûmes étaient sincères et magnifiques. Nous sortîmes de notre cachette le sourire béat. On irradiait de bonheur. Le mystère des fabuleux draps blancs venait de dévoiler les amants. Cette expérience nous mena néanmoins à une véritable énigme. Il suffisait d'un simple caprice du destin pour être face à un cruel dilemme.
Mon cher Cyrano, je suis le seul à ne pas te juger, le seul à te comprendre. Voilà le grand mystère de nos fabuleux draps blancs. Envers et contre tout, je t'aime, mon Cyrano. Chuchotai-je à l'oreille.
À la lueur de mes 18 ans, j'étais devenu un animal sauvage, constamment en alerte, à l'affût de toute méprise potentiellement malsaine qui causerait notre perte. J'avais perdu mes rêves d'amour libre, condamné à rester menotté à un mal impardonnable. Mère Mathilda était la seule au courant de notre relation, la seule à savoir que nous étions amoureux. Sache qu'il y a des choses à garder en soi pour prolonger le rêve, mon chéri. Préserve ce doux mystère en toi. Donne-lui un moment de sursis pour le maintenir en vie. Vos yeux sont le reflet de vos âmes. Mon ange, il peut vous trahir, vous punir sévèrement, vous mener à la peine capitale. Vivez votre amour à l'ombre de la lumière. Elle vous épargnera des coups amers. Bien des années plus tard, Cyrano et moi-même avions choisi de continuer à vivre notre amour dans le plus luxueux bordel de Paris. Situé dans les quartiers Notre-Dame, la somptueuse demeure de Mère Mathilda était fréquentée par la mondanité de l'époque. La mise en scène était bien ficelée. Nous avions pour coutume de nous retrouver dans le grand salon tapissé de papier peint velours violet, orné de larges canapés rouges satin. Nous étions entourés du plus alléchant gratin de la haute société virile. Intellectuels, politiciens, artistes, Tous ces hommes portaient des costumes sombres soyeux et des chapeaux hauts de forme satinée. Ils conversaient entre eux, buvaient généreusement, puis, quand la soirée commençait à s'éterniser, mon amant Cyrano et moi-même montions les marches du grand escalier au bras de notre courtisane d'un soir, sous les regards complices de mère Mathilda et de toutes ses filles de joie. Nous nous retirions ensuite dans les couloirs infinis de ce sacré bordel pour se retrouver finalement seuls. Notre intimité demeurait calfeutrée derrière les portes closes et mystérieuses. Le secret bien gardé à l'intérieur de la maison close, à l'intérieur de la somptueuse demeure, la lanterne rouge. Les lendemains, comme chaque matin, nous dévalions, tels deux gamins, les marches du grand escalier depuis notre chambre et nous rejoignions la cuisine pour savourer les petits pains croustillants au chocolat blanc de mère Mathilda. Dans ce calme absolu qui envahissait les pieds jusqu'au jardin, nous avions la sensation, Cyrano et moi-même, d'être devenus des humains vénérés des dieux de l'Olympe. Nous croquions aussitôt le petit déjeuner dans le hamac installé dans le jardin, à rêver dans les airs pendant qu'une odeur sucrée enivrait nos narines. Nous étions heureux d'être amoureux dans ce lieu douillet, empli d'une insouciance manifeste. Quand arrivait la pénombre, la mise en scène de ces incessants va-et-vient de notre chère et grande famille recommençait. Le défilé de ces hommes en costumes sombres et chapeaux hauts de forme satinée ressemblait à une chorégraphie taillée de toutes pièces pour le ballet de l'Opéra de Paris. Chaque attitude était subtilement codifiée. Un homme ivre pourtant se fit oublier. Il se pavanait dans les couloirs infinis de cet immense bordel où des gémissements de plaisir traversèrent soudain les murs d'une pièce. L'homme, en bon clandestin qu'il était, se pencha pour scruter sans aucun scrupule par le petit trou de la serrure de la porte close et mystérieuse. Placé aux premières loges, il devina le spectacle de deux corps étendus sur un lit recouvert de drap blanc. Le lit tanguait sur une mer houleuse, faisant valser les fabuleux draps blancs par-dessus bord. Le clandestin, noyé d'ivresse, poussa des hurlements éraillés. « Bordel ! Bonté divine ! Plein sacré bordel ! Au scandale ! Au scandale !» Le voleur de rêve nous avait pris sur le vif. Il laissa derrière lui une traînée de poudre aussi terrifiante que cruelle qui se répandit à ciel ouvert dans tout Paris. Bientôt, une sentence brutale arriva jusqu'à la lanterne rouge. La somptueuse maison, close, fermée si vous préférez, verrouilla sa porte d'entrée définitivement aux incessants va-et-vient de notre grande famille en 1922. J'étais le coupable, le seul à être blâmé pour cet acte odieux. J'étais le fou. J'étais l'auteur d'un crime sulfureux. J'avais brisé la vie de ma mère, je l'avais ruinée, humiliée, je l'avais tuée. Et malgré tout ça, ma mère Mathilda ne m'en voulut jamais. Sa vie gagna contre l'injure, sa vie triompha de la honte, sa vie l'emporta sur la mort. Bercée par un vif sentiment d'amour inconditionnel qu'elle m'avait accordé lorsque je naquis la tête la première en 1888, expulsée sous des fabuleux draps blancs dans le plus grand bordel de ma vie. Ensuite, arriva ce qui ne devait pas advenir. Le sort s'acharna sur notre couple. Un procès eut lieu à ciel ouvert. Le tout Paris nous toisait d'un air d'aversion. À écouter Cyrano lorsqu'il prit sa défense, Il bégayait tellement que j'avais l'impression que c'était la vie elle-même qui le faisait taire. Moi, Lancelot, je pleurais de l'intérieur pour consoler ma souffrance. L'épilogue de ce supplice arriva très vite. Le juge asséna un coup de marteau fatal sur un vulgaire bloc en bois d'acacia pour proclamer le verdict. Condamné à mort. À cet instant, la terreur s'empara de nos corps et nous allongea côte à côte dans les ténèbres d'une effroyable lame d'acier qui, d'un coup de sentiment vif d'horreur, coulissa entre les montants verticaux et nous décapita. Notre amour n'était plus qu'une nébuleuse. Le sens de la vie est qu'elle n'a aucun sens. Elle coule de source, depuis sa source.
À l'aide! Au secours! Je vous supplie d'épargner nos vies!
S'époumona Lancelot.
Calme-toi, nous sommes presque arrivés, lui assura Cyrano.
Mais où sommes-nous, bordel?
Nous sommes au-dessus des nuages, dans les airs, à ciel ouvert.
Nous sommes au paradis?
Lancelot, tu t'es tout bonnement assoupi pendant le vol.
Ah bon, le vol?
Tu te trouves sur le vol Air France, à destination de Paris.
Paris?
Moi, Claude, je fis la connaissance de Gabriel il y avait de cela bien longtemps. Cheminant des lieux et des lieux à travers les plaines verdies de mon plat pays au volant de ma deux chevaux décapotés, j'affichais fière allure, illuminée par un ardent soleil d'été. Je roulais tel un vagabond sur la route de l'horizon en quête d'un vif sentiment d'amour. J'étais loin de m'imaginer ce qui allait m'arriver au bout de la longue épopée qu'avait été ma calamiteuse vie sentimentale. Ma douce de chevaux fut littéralement emboutie par l'arrière. Le choc fut fatal. Une colère carabinée me submergea tellement que j'étais prêt à mitrailler ce chauffeur du dimanche. Il s'avança face à moi, il me sourit et il me tendit la main.
« Enchanté, Gabriel. Désolé de vous avoir accroché. »
Figé de stupeur, ma colère aussitôt s'évapora à ciel ouvert.
« Enchanté, Claude. Ne vous inquiétez pas, l'impact n'était pas si grave. »
S'ensuivit la rédaction du dit constat en double exemplaire. Je vis directement que ce chauffard du dimanche avait des airs de poète à la manière délicate dont il tenait le crayon et le manipulait avec la souplesse de son poignet. On aurait cru apercevoir Cyrano de Bergerac écrivant un poème d'amour en calligraphie. Gabriel était un jeune trentenaire à l'allure svelte, nonchalante, un homme au visage d'une élégance naturelle. Il se dégageait de lui une impression de profonde sérénité et d'amabilité. Ses cheveux ébouriffés m'inondaient de leur parfum si subtil que je me retrouvais très vite suspendu au temps.
Bordel, me dis-je, je suis en train de tomber sous le charme de ce Cyrano.
L'idée me vint, en bon gentleman, de l'inviter à finaliser le constat à la terrasse d'une brasserie non loin de là. Son visage irradiait d'une telle joie que je fus pris d'un envoûtement immédiat qui m'éblouit. La brasserie, la Lanterne Rouge, était une somptueuse bâtisse du XIXe siècle, tenue par une patronne à la gentillesse goulue. Elle proposait gîte et couvert. Le site idyllique flottait sur un océan de champs verdoyants à s'y perdre dans le néant. Depuis cette vue imprenable, nous étions assis en terrasse côte à côte sur des chaises confortables en bois d'acacia. Ce fut par un clin d'œil furtif de ce cher Cyrano que le jeu de séduction commença. Moi, Claude, je n'attendais que ça. Gabriel et moi-même dévoilions notre affect, loin des embarras de ma deux chevaux décapotés quasi sinistrés. Une alchimie grandissait au fur et à mesure des caresses visuelles échangées, des gestes lents s'effleuraient. J'avais la sensation que les paroles de Gabriel me calmaient, comme si elles me cajolaient. Notre séduction s'affichait à ciel ouvert. Nous étions entourés d'hommes aux habits sobres et soyeux et de femmes aux robes légères. Ils conversaient entre eux, buvaient généreusement, puis, plus la soirée s'éternisait, plus des fous rires éclataient sur la terrasse, faisant éclore un sacré bordel de brouhaha empreint d'une folle atmosphère aussi délirante que conviviale. J'attendis avec délice que Cyrano m'attrapa par la taille et m'embrassa de tendresse jusqu'à me mordiller. Claude, je rêve de chavirer toute la nuit à tes côtés. Ah, écoutez, Cyrano parlait. Je crus mourir de poésie, complètement hypnotisée par le timbre de sa voix. Sa main délicate épousa ma cuisse gauche et Cyrano m'embrassa. L'intérieur de la somptueuse brasserie et la lanterne rouge desservait un vaste salon aux murs tapissés de papier peint velours violet et ornés de larges canapés rouges satin. Un escalier impérial s'imposait par sa beauté architecturale. Nous montâmes les marches bras dessus, bras dessous, pour nous retirer dans les couloirs infinis de cette admirable demeure du XIXe siècle. Je ne pus m'empêcher de scruter par le trou de la serrure de notre porte close et mystérieuse, tant ce jeu occupait mon passe-temps favori lorsque j'étais tout petit. Une sérénité planait dès le seuil de la porte d'entrée. Un lit présidait le centre de la chambre, habillé de fabuleux draps blancs. Lorsque Cyrano me regarda de ses yeux perçants, mes paupières se plissèrent peu à peu. Son étreinte était délicieuse et ma jouissance immense. Nous partîmes à la dérive dans un effluve parfumé pour échouer sous les fabuleux draps blancs qui étalaient sur nos corps une sensualité dévorante. Le massage des mains de Cyrano sur mon corps déclenchait une fièvre de pulsations cardiaques d'une intensité déferlante et sans limite. Des gémissements volubiles de plaisir s'échappèrent. La tendresse s'adonna au bal des caresses. Et les moines trouva mot à dire, ne songeant qu'à l'instant d'adresse. Un sentiment d'amour planait. On ne dormit presque pas cette nuit-là, pas plus que les fabuleux draps blancs d'ailleurs. Les moments que nous vécûmes étaient sincères et magnifiques. Nous sortîmes de notre cachette le sourire béat. On irradiait de bonheur. Les fabuleux draps blancs avait révélé les amants. Cette expérience nous mena à un véritable constat, bien loin du dit constat complété pour la deux chevaux décapotée, quasi sinistrée. Il suffisait d'un simple désir du destin pour être face à une incroyable évidence. Mon cher Claude, je suis le seul à connaître ta force chevaleresque, le seul à percevoir ton air noble et vaillant, le seul à te comprendre. Sans aucun doute, je t'aime, mon Lancelot, me murmura Cyrano à l'oreille. Apprendre à connaître, c'est être libéré d'aimer. À l'orée de mes 35 ans, j'épousais Gabriel un jour d'été 2022. Des applaudissements joués honoraient notre engagement, des vivas à tout va célébraient notre amour. Nous étions un couple heureux. Arriva ensuite ce qui devait advenir. Le désir d'être parents s'acharna sur notre couple. Nous déposâmes une demande d'agrément auprès du service d'aide sociale à l'enfance. Après une longue et périlleuse procédure d'incalculables évaluations sociales et psychologiques, l'épilogue de ce supplice arriva enfin. Le juge saisit d'un geste vif le dossier instruit pour proclamer le verdict à ciel ouvert. Agrément accordé. À entendre le juge, une euphorie incontrôlable s'empara de nos corps et nous propulsa dans notre vie de parents. Sur le vol Air France à destination de Paris, je me réveillai en sursaut, le visage trempé de sueur. Je compris que ce mauvais rêve m'avait suspendu en plein vol à une peur qui se dissipa très vite à force de croire en ma vérité. Dans le grand hall d'accueil de l'aéroport Charles de Gaulle, Mathilda apparut debout face à nous. Elle n'avait pas d'âge précis, aux alentours de 5 ans. Elle venait de l'orphelinat de Bangalore, en Inde. Petite fille des rues à l'avenir peu prometteur, son destin avait choisi de jeter son dévolu sur nous. L'iris et la pupille de ses yeux se confondaient dans un noir absolu. Ses cheveux coiffés en chignon étaient attachés par un ruban rouge satin. Elle portait une robe au froufrou chatoyant, couleur pourpre, et des ravissants souliers rouges brillants. L'ensemble lui allait à merveille. Nous la regardions, le visage béat, noyé dans ses yeux, totalement sous le charme, épris d'un amour inconditionnel. Mathilda étreignit alors contre son corps son ourson Teddy, couleur chocolat blanc. À contempler Mathilda, une envie aussi troublante que dévorante de la croquer m'envahit et me subjugua dans une transe de bonheur telle que je la pris dans mes bras et la soulevai à ciel ouvert, libérant ses cris de joie d'enfant. Mathilda, te voilà. Sa première fête d'anniversaire fut organisée à notre retour dans notre belle demeure. Pourtant, je m'aperçus très vite que la porte d'entrée de la maison était restée grande ouverte toute la journée, laissant place à d'incessants va-et-vient qui intriguèrent notre fille Mathilda.
Tell me, Dad, who are all those people?
They are our big and beautiful family, sweet darling. We love you, Mathilda.
I love you too, Daddies.
L'humanité est un irrésistible voyage.